Je suis avec Laurent Grasso à Carriage Works. Laurent Grasso est un artiste de renom international qui présente, dans le cadre de la Biennale de Sydney cette année, un film qui s'intitule Auto. Bonjour Laurent Grasso.
Bonjour.
Est-ce que c'est la première fois que vous exposez en Australie ?
Non, j'ai déjà exposé à Carriage Works il y a, je crois, 2 ans dans une exposition de groupe. Et je montrais un néon à grande taille avec une phrase en anglais « Visibility is a trap ». C'est une phrase de Foucault.
Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu les lignes de force, les sujets de prédilection qui vous tourmentent et qui vous inspirent en tant qu'artiste ?
Alors, mon travail est déjà assez protéiforme. Je fais à la fois des films. On va dire que les films sont ma pratique principale. Et après, autour des films, se développent différents objets, des peintures, des néons d'autres choses. Mon travail, particulièrement le film qui est montré ici et d'autres projets aussi, traite un petit peu de la question de la représentation, de l'invisible, de l'accès à certaines zones qui sont compliquées. J'ai notamment fait un projet avec le bureau du président de la République en France, dans lequel j'ai pu faire un tournage de cinéma. Et donc cette question de l'accès est assez importante pour moi. La négociation diplomatique pour pouvoir avoir accès à des lieux particuliers fait partie de mon travail.
Alors justement, de négociation, il en a été question, puisque cette œuvre-là, Auto, est une œuvre de commande de la Biennale. Enfin, une œuvre de commande, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est un projet qui a été spécifiquement pensé et créé pour être exposé dans ce cadre-là. De quoi s'agit-il ?
J'ai été invité d'abord à participer à la Biennale par la commissaire Mami Kataoka, donc, qui est une commissaire japonaise, chief curator du Mori Museum à Tokyo. Et donc, il n'y avait pas d'idée préconçue. Elle aime mon travail, elle le connaît, elle l'a déjà montré dans d'autres biennales. Et donc, j'ai fait un voyage de recherche il y a un an et j'ai demandé à ce qu'on m'emmène dans le désert ici, sans avoir aucune idée de là où j'étais censé aller, parce que je connaissais absolument rien. Et j'ai fait un voyage assez touristique à Alice Spring et à Ayers Rock. J'étais assez d'ailleurs étonné du dispositif touristique et du contraste entre ces endroits qui sont très impressionnants, qui ont une vraie force, et le tourisme qui est organisé autour de ça. J'ai découvert qu'il était très compliqué, surtout pour les Australiens, de négocier, ils avaient un rapport très compliqué avec les territoires aborigènes et avec les aborigènes eux-mêmes. Et donc, sans le savoir, un peu naïvement, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui était très, très lourd. Très vite, j'ai senti quand même si ce voyage était assez touristique, qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Que ce qui m'intéressait en Australie, c'était ça, c'est-à-dire ces paysages, cette histoire, cette géographie, cette géologie aussi, parce que ce sont des paysages qui sont très anciens. Et donc, j'ai commencé à mettre en place un projet, mais j'ai dû vraiment me débrouiller tout seul.
Et justement, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été un artiste français et non pas australien a été finalement, d'une certaine manière, un avantage dans votre rapport à la communauté aborigène que vous avez fréquentée, avec laquelle vous avez travaillé?
Je pense qu'effectivement, ne pas être trop concerné et trop dans la représentation par rapport à ce qu'on attend des Australiens, de leur manière d'être par rapport aux aborigènes, m'a permis de faire un projet complètement libre et puis plutôt d'associer les territoires aborigènes et les aborigènes à un projet de fiction plutôt que d'être dans une espèce de rapport paternaliste ou documentaire à la cause aborigène et d'avoir cette impression que peuvent avoir certains artistes d'aider. Moi, j'ai pas eu l'impression, j'ai pas voulu aider, j'ai plutôt voulu faire participer les aborigènes à un projet de fiction et sans promettre quoi que ce soit en fait.
Oui, vous disiez tout à l'heure en présentant votre film qu'il s'agissait plus de les impliquer dans votre travail que de faire un travail sur eux.
Oui, exactement. C'est un lieu qui m'intéresse pour des raisons assez objectives. Je trouve qu'il y a une vraie force dans ces paysages. Je suis intéressé par le fait que comment on considère certains lieux sacrés, pourquoi, et est-ce que ces lieux émettent quelque chose concrètement. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé aussi des nouvelles caméras et une manière aussi de cristalliser cette force en ajoutant des sphères qui apparaissent comme des présences étranges. Mais l'idée était d'aller vérifier, d'aller travailler cette question qui ferait que ces lieux ont une, on va dire de manière reconnue, une force, une énergie un peu particulière, mais est-ce que concrètement il y a un rayonnement, ça émet quelque chose concrètement. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais référence dans le titre à Otto Schumann, parce que c'est lui qui a parlé le premier d'une résonance terrestre, d'un champ magnétique de la Terre, et donc du fait que oui, il y a certaines fréquences qui sont émises, c'est connu scientifiquement, et mon idée est que peut-être selon les endroits et l'histoire qu'ils portent, la fréquence pourrait changer, s'intensifier, changer de couleur, de qualité.
Alors justement, cette tension présente très fortement dans votre travail entre la science et le spirituel, pourrait-on dire. Elle se retrouve aussi dans le titre, vous l'avez dit, puisque Otto, c'est non seulement la référence au scientifique, mais c'est aussi une autre référence.
Otto, c'est le nom du personnage qui apparaît dans le film et du traditional owner qui nous a donné l'accès au lieu. Et donc, il y a effectivement une double résonance entre...
Vous nous avez parlé un petit peu de, des techniques que vous aviez utilisées, notamment des caméras que vous aviez utilisées pour réaliser ce film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, du tournage en lui-même et puis après un peu de la post-production, parce que je crois que ça a été un projet assez lourd.
Oui, le tournage a été assez éprouvant parce que, en fait, forcément, ce sont des lieux qui n'ont aucune infrastructure touristique et donc on a dû loger de façon assez sommaire et puis ce sont des lieux assez reculés et c'est ce qui fait leur intérêt. Et puis on avait un camp de base et après on rayonnait autour de ça en faisant parfois plusieurs heures de pistes en 4x4 pour atteindre les lieux de tournage dans lesquels on est revenu à chaque fois plusieurs fois en plus. Il y avait des orages très forts en novembre et donc ça a rendu les conditions de tournage assez complexes avec toutes les tensions habituelles dans un tournage un peu extrême de ce type-là. Ça s'est globalement très bien passé. Et puis après, la post-production a été assez longue parce que j'ai vraiment voulu avoir la création de ces sphères qui représentent un petit peu ce qui ne peut pas être dit. Parce que en fait... La manière de cartographier le territoire qu'ont les aborigènes avec les songlines, qui sont des récits, des narrations qui se développent dans différents lieux. Comme c'est quelque chose qui n'est jamais dit, il y a toute une culture aborigène qui est complètement secrète et interdite aux personnes qui ne sont pas membres de leur communauté. Et donc, il y a une notion du secret qui est très forte. Il y a des rochers qu'on n'a pas le droit de filmer, il y a des lieux qu'on n'a pas le droit de filmer, des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et donc, pour moi, ces sphères, elles étaient un petit peu la cristallisation de ces choses qui se sont tenues secrètes.
On peut peut-être dire un mot aussi du son, qui est très très important dans cette œuvre-là.
Oui, dans tous mes projets, le son sert un petit peu à produire un état modifié de conscience et à mettre le spectateur dans une certaine disposition pour se laisser happer par le flux du film et des mouvements de caméra qui sont aussi très importants pour moi parce qu'ils sont faits par des drones. Donc il y a quelque chose de très flottant qui génère une espèce d'état général entre le son et l'image.
Vous parliez tout à l'heure du rôle social de l'artiste, le fait que vous ne vous êtes pas investi dans ce projet en... promettant quoi que ce soit aux communautés aborigènes avec lesquelles vous avez travaillé. Est-ce que néanmoins, vous considérez, Laurent Grasso, qu'un artiste dans le monde d'aujourd'hui a un rôle social, ou en tout cas, si rôle il y a, quel serait-il ?
Le rôle, c'est de construire des représentations, de construire des mythes, de construire territoire de réflexion, de questionnement. Il n'est pas de donner des réponses et d'avoir la prétention justement de régler certaines problématiques. Voilà, mon film ne va pas régler la question aborigène qui me semble assez grave par ailleurs, quoi, et très problématique en Australie. Et finalement, malgré tous les dispositifs tout le côté politiquement correct qu'il peut y avoir autour de cette question, c'est une question qui est finalement pas du tout réglée. Et je crois pas qu'il y ait vraiment une volonté de la régler. Mais je vois pas pourquoi moi, artiste, je devrais être impliqué dans cette espèce d'impasse. Au contraire, je pense que c'est intéressant pour les aborigènes de les faire participer à un projet d'égal à égal et sans arrière-pensée et sans promesse. Et ça change une espèce de rôle qu'aurait l'artiste qui est souvent plutôt une forme de communication et de marketing autour d'un art qui serait engagé. Qui doit engager l'art et l'artiste, c'est de faire un vrai projet intéressant. C'est pas la prétention de régler certaines situations qui est à mon avis totalement naïve et déplacée.
En tant que spectateur, quelles sont là les œuvres et les artistes dont vous avez envie de voir le travail ici à la Biennale?
Je trouve que Carriage Work a vraiment une certaine qualité d'installation et justement de travaux qui sont très intéressants, assez poétiques, avec des questionnements forts mais sans justement prétention. Donc j'étais très intéressé par tout ce qui est présenté ici en fait. On a visité Cocteau Island hier et évidemment il y a aussi là des choses très intéressantes. C'est un parcours après avec une espèce d'idée générale.
Dernière question, vous avez étudié aux Beaux-Arts à Paris, vous êtes aussi passé par Londres et New York. Est-ce qu'il y a une différence d'approche notable de l'art contemporain entre ces différents pays, comme il peut y en avoir une dans l'apprentissage de l'art dramatique par exemple?
Oui, je pense que effectivement l'apprentissage est plus développé d'une certaine manière et plus actuel dans les pays anglo-saxons. Il y a un questionnement autour de ce qui doit être transmis, de ce qui doit être fait. Moi j'étais aux Beaux-Arts de Paris, qui était une école finalement très conservatrice, assez traditionnelle, assez vide. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de pouvoir étudier aux États-Unis, même très brièvement, mais avec cette notion de l'efficacité et de vraiment essayer de faire progresser les choses.
Merci beaucoup Laurent Grasso.
Merci.